terminer et commencer la semaine, écoutez Cyril Ekuala et son équipe. Né au Québec tous les dimanches de 15h à 17h sur CIBL.
Voilà, je vous ai dit qu'on allait parler un peu de droit à place au droit et à la société. Et on le fait en parlant avec Suzanne Taffo, qui est cofondatrice du cabinet Erit Avocat. Oui, on va parler immigration, plus spécifiquement du projet de loi C2. C'est donc un projet de loi en discussion sur le plan fédéral. Alors, j'ai fait mes recherches. Alors, grosso modo, on dit qu'il vise à renforcer un peu la sécurité à la frontière entre le Canada et les États-Unis. Hein. Voilà un peu comment c'est présenté. Donc là, il est en deuxième lecture, si je ne me trompe pas. Ça veut dire qu'il y a une première lecture. Il est en deuxième lecture. Depuis que ça a été annoncé, depuis que ce projet de loi a été mis devant les parlementaires, il a suscité beaucoup de controverses, d'opposition. Il y a quasiment près de 300 groupes de la société civile qui ont demandé l'abrogation de ce projet de loi, le qualifiant de menace pour les droits des migrants, pour la vie privée, pour les libertés civiles, parce que bon, il dénonce beaucoup de choses, notamment, et c'est vraiment sur ce volet que je voulais qu'on parle, sur la possibilité de suspendre ou annuler des demandes d'immigration. La question, c'est pourquoi, comment ? Je ne peux pas en parler sans tenir compte du contexte politique. On sait qu'on a un voisin au sud qui s'est plaint et qui n'arrête pas de se plaindre du fait que nos passoires seraient nos frontières seraient des passoires, carrément. Est-ce que c'est à cause de ça, maître ? Est-ce que c'est à cause de ça ? D'abord, non, mais de manière sérieuse, est-ce que le projet de loi, c'est le tel que je l'ai présenté ? Est-ce que c'est ça ?
C'est exactement ça. Okay. Je pense que, Cyril, tu as bien résumé un peu le contexte et surtout l'objet, en fait, on va dire, de ce projet de loi-là, qui clairement, pour nous avocats, pour les membres de la société civile, les organisations qui s'inscrivent en fait contre ce projet de loi-là, clairement s'inscrit dans un contexte politique et clairement vise un peu à redorer entre guillemets le blason là de notre voisin du sud, parce qu'il faut dire que c'est quand on regarde le projet, c'est comme une sorte de fourre-tout, hein, excusez-moi l'expression, là c'est comme on mélange un peu tout, on mélange la sécurité des frontières, parce que c'est comme ça que le projet de loi s'intitule, hein, c'est vraiment projet de loi, une loi visant à une sécurité rigoureuse des frontières. Okay. Donc, on mélange un peu tout ce qui est sécurité, entre guillemets, lutte contre le blanchiment d'argent, lutte contre le crime organisé, puis en même temps, on ramène plusieurs...
On ramène, d'autres sous-questions, sous-dossiers.
Exactement, le droit de l'immigration et surtout le droit des réfugiés qui est une partie essentielle, je dirais, là, de ce projet de loi-là. Je pense que c'était vraiment important pour moi de venir aujourd'hui. Je suis sur différents comités plaidoyers, dont le comité plaidoyer contre ce projet de loi-là de l'ACADI, donc l'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration. Ça c'est au niveau du Québec. Okay. Sur le comité plaidoyer du CARL, qui est l'Association canadienne, cette fois-là, des avocats en droit des réfugiés. Et en tant que membre de la stratégie canadienne, on est plusieurs là à s'inscrire contre ce projet de loi-là, qui clairement porte une atteinte, selon nous, considérable au droit international et même aux obligations internationales auxquelles le Canada a souscrit quant à la protection des personnes qui demandent l'asile, qui ont besoin d'être protégés.
Alors c'est ça, c'est qu'il est beaucoup en rapport avec justement quand on parle d'immigration, oui, les demandeurs d'asile, les migrants et tout. Mmh. Il y a quelque chose que quand on pense à ça, quand je lisais, je parcourais un peu justement vos récriminations, il y a ce fameux l'acronyme ETPS qui apparaissait, donc qui est l'entente sur les pays sur les tiers pays sûrs. Oui. Premièrement, petit rappel, qu'est-ce que c'est l'entente sur les tiers pays sûrs ? Qu'est-ce que c'est exactement ?
L'entente sur les tiers pays sûrs, c'est une entente qui est signée, donc je vais parler essentiellement de celle entre le Canada et les États-Unis, 2012, si mes souvenirs sont exacts, signée par ces deux pays-là visant à dire, en principe, un demandeur d'asile qui se retrouve dans un pays tiers sûr, donc un pays autre que le sien, doit demander l'asile à la première occasion dans le premier pays tiers sûr.
Okay.
Et c'est, en fait, cette entente visait essentiellement à éviter que les demandeurs d'asile fassent ce qu'on appelle une sorte de shop country, dans okay. le sens où c'est je préfère le Canada, même si je suis aux États-Unis, j'arrive au Canada, je demande l'asile. Donc cette entente-là signée a été modifiée aussi récemment avec, vous avez sûrement entendu parler du chemin Roxham.
Oui.
Donc, chemin Roxham, pendant qu'on se concentrait sur le mur physique que voulait bâtir à l'époque
nos voisins du Sud,
entre-temps, le Canada, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il bâtissait un mur invisible avec ce chemin Roxham visant à dire, dorénavant, le chemin Roxham, c'est un point d'entrée officiel qui fait en sorte que quelqu'un qui se présente au chemin Roxham ne peut plus demander l'asile. Parce que venant d'un pays tiers sûr qui est les États-Unis.
Donc, ah, ça, on n'avait pas vu cette analogie-là.
Effectivement.
Non, pas du tout. Dans
l'opinion publique, non, il n'y a pas cette analogie qui est faite. Parce qu'en principe, le Canada ayant signé donc, la Convention sur les réfugiés, la Convention de 1951, un demandeur qui se retrouve sur le territoire canadien a le droit de demander l'asile. Alors, ce que les personnes faisaient, c'est de traverser le chemin Roxham, de se retrouver sur le territoire canadien et de faire une demande d'asile. Okay. Et là, ne leur était pas opposé le fait qu'ils venaient des États-Unis. Avec le chemin Roxham, on crée un mur. On dit, si vous venez des États-Unis, vous êtes dans un point d'entrée officiel. Vous ne pouvez plus demander l'asile parce que vous venez d'un pays tiers sûr.
Sauf qu'aux États-Unis, l'entente, on est toujours dans cette entente-là?
On est toujours dans cette entente-là. La Cour suprême, récemment, a confirmé la validité de l'entente parce que vous savez qu'elle faisait l'objet de « challenge » entre guillemets auprès de nos institutions judiciaires. Et tout récemment, avec la deuxième arrivée de Trump et tout ce qui se passe aux États-Unis, il y a une nouvelle demande qui est présentement pendante devant la Cour supérieure visant à démontrer en quoi cette entente, clairement, ne respecte pas en fait, les principes aussi et les règles du droit international. Et avec le fait que les personnes qui sont retournées aux États-Unis, au final, ils sont déportés sans possibilité d'être entendus sur leur demande d'asile de manière plus fondamental.
Ok. Est-ce que c'est le projet de loi C2 qui fait du chemin Roxham le mur invisible?
Non. C'est que le projet de loi C2, de manière très concrète, introduit deux irrecevabilités.
Okay.
Donc, il y a les irrecevabilités qu'on voit à la Convention des réfugiés. Donc, une personne qui a déjà demandé l'asile ailleurs ne peut pas demander, ne peut plus. Sa demande d'asile au Canada sera irrecevable. On a l'irrecevabilité relativement à ce qu'on appelle la grande criminalité, donc quelqu'un qui a un dossier criminel ne peut pas déposer une demande d'asile. On a l'irrecevabilité relativement à des personnes qui ont déjà été reconnues réfugiées dans des pays qui peuvent plus être, dont la demande serait irrecevable. Il y a plusieurs irrecevabilités qui sont dans la convention. Et donc le C2 vient rajouter deux irrecevabilités. La première, c'est quant au délai d'un an. Donc si quelqu'un est entré au Canada, si ça fait plus d'un an que la personne est au Canada, est entrée pour la première fois au Canada, elle ne peut plus demander l'asile. Donc, de manière concrète, et ça, ils veulent le faire de façon rétroactive, c'est-à-dire que quelqu'un qui serait arrivé en 2021, par exemple, et qui a déposé sa demande d'asile en 2022, la demande de la personne sera irrecevable.
Parce qu'il a passé déjà un an.
Parce que ça fait un an. Mais sauf que ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que c'est pas la durée sur le territoire, c'est dès la première entrée. C'est-à-dire que quelqu'un qui était venu en 2007 avec un visa, par exemple, et qui est retourné dans son pays d'origine, toujours en 2007, qui est resté deux semaines, ne peut plus aujourd'hui faire une demande d'asile s'il arrive en 2025 et qu'il a des motifs de croire que sa vie, sa sécurité, etc. seront en danger. Donc, il y a déjà ce délai d'un an qui est introduit comme motif d'irrecevabilité. Le deuxième motif d'irrecevabilité... Je ne sais pas si.
Non, ça va. C'est même plutôt très intéressant. Je découvre des choses, c'est ça.
Donc, le deuxième motif d'irrecevabilité, c'est que. Avec cette fameuse entente des pays tiers sûrs et donc le point d'entrée qui a été, dans le fond, prolongé, qui est devenu le chemin Roxane, qui est devenu un point d'entrée officiel. Mm-hmm. Ce qui se passait, c'est qu'ils ont introduit ce qu'on appelle la règle du 14 jours. Vous avez sûrement entendu parler de la règle du 14 jours, qui veut que quelqu'un qui a réussi à passer de manière irrégulière à la frontière, dans des conditions les plus périlleuses qui puissent exister.
C'est-à-dire plus par le chemin Roxane, mais par exemple, à côté.
Exactement, okay. Des passeurs, etc., mm-hmm. qui fait que leur vie est encore plus vulnérable. Avec l'entente des pays tiers sûrs qui a été prolongée, ce qu'on disait avant, c'est si jamais il y a une personne qui a réussi à faire ça, si ça fait plus de 14 jours qu'il est au Canada, ben il peut déposer sa demande d'asile. Okay. Ben avec le projet de loi C2, même le 14 jours, la demande sera irrecevable.
Parce que vous êtes entré irrégulièrement,
mais le délai de 14 jours ne sert plus. C'est-à-dire que si ça fait 14 jours, votre demande sera irrecevable. Donc ça, c'est les deux grandes irrecevabilités qu'introduisent le projet de loi. Mm-hmm. Alors, le projet de loi aussi vient dire, parce que je sais que c'est ce qui va être opposé, ce qui nous sera retourné, c'est de dire, oh ben oui, leurs demandes, elles ne sont pas irrecevables, on respecte quand même le droit international parce qu'on leur donne la possibilité de faire ce qu'on appelle une demande d'évaluation des risques avant renvoi. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que la demande d'évaluation des risques avant renvoi, ça part du principe de non-refoulement, c'est l'article 115 de la loi sur l'immigration, et c'est que ces demandes d'erreur sont déposées, déjà premièrement, c'est seulement sur papier, donc il n'y a pas d'audience qui est faite à une personne qui demande cette erreur-là. Et ce sont des agents d'immigration qui sont pas nécessairement formés aux questions, voilà, du droit des réfugiés. Et donc, ils vont rendre des décisions un peu à la va-vite. Et d'ailleurs, quand on regarde la Cour fédérale, parce que une fois que les décisions sont rendues par des agents d'IRCC sur ce type de demande d'erreur, en général truffé d'erreurs, ce qui se passe, c'est que les demandeurs vont faire ce qu'on appelle une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale. Et quand on regarde les statistiques, plusieurs de ces demandes-là font l'objet de, entre guillemets, de squatch, donc de cassure par la Cour, parce que il y a des erreurs qui sont manifestement déraisonnables. Et donc, la Cour demande de renvoyer le dossier à un autre agent pour qu'il soit étudié. Donc, clairement, on est en train de déplacer un problème pour le mettre pour en créer un autre. Et c'est pas nécessairement une solution, ça ne répond pas de manière claire à l'objectif qui est de dire ben on veut désengorger, dans le fond on veut simplement désengorger dans une boîte pour remettre dans une autre boîte, une autre boîte encore moins qualifiée, parce que ces agents là pour la plupart n'ont pas de formation quant aux différents motifs, en fait, liés à la Convention. Mmh. Alors que, normalement, une demande d'asile aurait été évaluée par la CISR, donc par la section de la protection des réfugiés, par un commissaire, dans le cadre d'une audience, avec un commissaire qui a clairement, même si ce n'est pas toujours parfait, qui a clairement tous les compétences,
et tout,
etc., ouais. pour pouvoir statuer sur une demande en bonne et due forme. Mmh. Alors, donc, on crée des irrecevabilités. On dit, parce que votre demande sera irrecevable, vous aurez quand même droit à l'erreur, mais vous aurez droit à un erreur, donc l'évaluation des risques avant renvoi, sur papier, par un agent qui n'a pas nécessairement les compétences. Et on crée encore un backlog, comme on dit, auprès de la Cour fédérale, qui est déjà débordé, puisque le juge en chef de la Cour fédérale a émis une directive visant à prolonger les délais de mise en état de dossier de 30 jours à 75 jours. Donc.
Alors, vos contestations, de toi, par exemple, qui fait partie de, comment tu appelles, comité plaidoyer, et d'autres organisations, vous évidemment, en tant qu'avocate, vous le faites donc sur le plan juridique. On s'entend, vous contestez la loi sur le plan juridique, c'est ça?
Ben, en fait, ce qu'on dit, déjà, la première chose, c'est que moi, aujourd'hui, là, c'est vraiment à ma qualité là, de membre de la stratégie canadienne, parce que je pense que chaque comité de plaidoyer, on a fait certaines observations et dans le cadre de mémoires qu'on déposera pour que ces mémoires-là soient évaluées en commission, parce qu'il y aura un comité qui va se pencher là sur le projet de loi C2. Donc, moi, à ma qualité de membre de la stratégie canadienne, c'est sûr que une des premières recommandations qu'on fait, c'est retirer le projet de loi. Okay. Mais on n'est pas dupes, là. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette semaine, ou plutôt la semaine dernière, le projet de loi C2 a fait l'objet d'amendements pour être redéposé sous C12. Okay. Pourquoi ça fait l'objet d'amendements? C'est plus la question de... parce qu'il y a un autre pan de ce projet de loi-là dont je ne vous ai pas parlé, qui est tout ce qui est les pouvoirs étendus des agents des services frontaliers d'ouvrir les courriers sans mandat, de fouiller les effets sans mandat, etc. Et de partager des informations avec les États-Unis.
Oui, parce que pour que le public comprenne, le projet de loi, ce n'est pas juste l'immigration.
Exactement. Ouais, et donc, la semaine dernière, il y a eu des amendements relativement à ce partage de données-là. Mm-hmm. Et il a été réintroduit, toute la partie immigration est la même, ça a été réintroduit sous C12. Mais on s'entend que c'est la même chose. Mm-hmm. Et donc, on est plutôt avec tout ce qui se passe avec le gouvernement minoritaire, je suppose que ces amendements ont été faits après discussion, etc., en réalité, en fonction des tendances, donc avec le Parti conservateur aussi. En réalité, on se dit, c'est sûr, il risque de passer ce projet de loi-là. Okay. Donc, même si, nonobstant tout ça, nous, en tant que membres de la stratégie canadienne, c'est vraiment de dire retirer ce projet de loi, parce qu'il y a un impact considérable, déjà, comme je l'ai dit, en matière de respect de nos obligations internationales. Donc, c'est de retirer, mais en même temps, on demande au moins qu'advenant le non-retrait, mais qu'il y ait des, comme je disais tout à l'heure, des circonstances qui peuvent justifier le dépôt d'une demande d'asile. Par exemple, et ce nonobstant le délai d'un an. Donc c'est par exemple le cas pour des personnes vulnérables, des femmes, des femmes victimes de violences conjugales, des personnes de la communauté LGBTQ+. C'est d'ouvrir des cas d'exception à tout le moins, pour permettre que ce dont je viens de lister puisse déposer leur demande d'asile. Autre chose, c'est d'ouvrir ce qu'on appelle les circonstances impérieuses, parce que même en matière de droit civil, il y a la notion de l'impossibilité d'agir. Il y a des personnes qui peuvent arriver et qui, en raison de la barrière de langue, des questions financières, etc., ne déposent pas leur demande dans les un an de leur arrivée. Donc, c'est d'ouvrir au moins, d'avoir ce qu'on appelle donc les circonstances exceptionnelles qui peuvent justifier que quelqu'un dépose sa demande après. Bien évidemment, il faudra qu'il puisse le démontrer. Même en matière civile, il y a l'impossibilité d'agir. J'arrive pas à croire que dans un projet de loi comme celui-là, il n'y en ait pas. Donc, ensuite, c'est d'obliger qu'il y ait à tout le moins une audience pour les demandes d'erreur. Comme je disais tout à l'heure, c'est sur papier. Ben, si on a des demandeurs qui sont irrecevables, avec les deux irrecevabilités que je viens de lister, c'est à tout le moins de dire, votre demande, ça va être une demande d'évaluation des risques avant envoi, mais vous aurez au moins une audience. Mmh. Ça, c'est encore un autre point. Un autre point qui est hyper important, c'est de dire, advenant le refus de cette demande d'erreur, d'évaluation des risques avant renvoi, si la personne porte sa décision en appel, entre guillemets, parce que ce n'est pas vraiment un appel, mais en appel devant la Cour fédérale, que son renvoi soit suspendu. Parce que dans le projet de loi actuel, le renvoi de la personne n'est pas suspendu. Donc, il peut contester la décision devant la Cour fédérale, mais faire quand même l'objet d'un renvoi. Donc, c'est quand même paradoxal. Entre autres choses, c'est une réinitialisation du délai d'un an. Si on est parti, si on est venu avec ses parents, alors que, dans le cadre d'un tourisme ou quelque chose, et qu'on revient 7 ans après, que le délai d'un an soit réinitialisé. Et le dernier point, plus important encore, c'est les circonstances impérieuses qui peuvent exister dans le pays d'origine. On sait ce qui se passe, je ne sais pas moi, on va croiser les doigts, mais au Cameroun, par exemple, qu'il y a un demandeur qui est présentement au Cameroun, au Canada, pardon, et qui en raison d'une situation qui changerait dans son pays d'origine, ben, qui veut déposer une demande d'asile, ça ne peut pas être « Oh, ben, t'es rentré il y a un an, tout de suite, tu peux pas demander l'asile. » Non, c'est des circonstances impérieuses qui existent dans le pays d'origine qui peuvent justifier le dépôt d'une demande d'asile, nonobstant le délai d'un an. Mmh. Donc, c'est un peu ce genre de... En fait, c'est un peu ces points-là qu'on essaye de mettre sur la table de manière plus
concrète. Et est-ce que, quoi que je crois le comprendre, est-ce que ça peut, ces effets-là de ce projet de loi, s'il passe et que ça devient, est-ce que c'est rétroactif?
C'est rétroactif jusqu'en 2020. Ils veulent le faire de façon rétroactive jusqu'en 2020. 2020. Donc ce serait par exemple le cas, parce que le but, il faut se le dire, c'était pour lutter contre les fausses demandes d'asile. Donc les demandes d'asile de, par exemple, d'étudiants. De personnes étudiantes qui arrivent et qui ont déposé, qui ont commencé les cours et après deux ans déposent une demande d'asile. Donc, je pense que c'est aussi ça le contexte. Donc, ils veulent le faire de façon rétroactive en 2020. Mais sauf que ce qu'on ne dit pas, c'est que le changement aussi, il faut que nos gouvernements soient quelque peu responsables parce que le changement subi et de manière impromptue, notamment au niveau provincial, de tout ce qui était le programme d'évaluation, de l'expérience québécoise qui permettait à des étudiants dûment installés qui ont terminé leurs études de faire une demande de certificat de sélection afin d'obtenir leur résidence permanente et qui, de but en blanc, sans préavis, coupe entre guillemets ou suspende ce programme qui était un tremplin
pour pouvoir obtenir
la résidence. Ça veut pas, il y a une responsabilité à ce genre de décision. Ça peut avoir entraîné certains étudiants on ne dit pas que leur demande n'était pas fondée, une demande d'asile n'était pas fondée, mais qui avaient cette alternative et qui se disaient, moi, je vais pouvoir avoir ma résidence permanente en étudiant et en même temps, je vais être en sécurité, qui se retrouvent en train de devoir demander l'asile. Ça ne veut pas dire que leur demande d'asile est pour le moins infondée, c'est juste qu'ils se disaient, j'ai une alternative qui est celle-ci, je vais en plus payer mes frais de scolarité, je vais m'intégrer, je vais avoir un diplôme et puis je vais pouvoir avoir ma résidence permanente. Donc, c'est aussi une responsabilité.
Et contribuer.
Exactement.
Suzanne Tafo, il nous reste très peu de temps.
Je sais.
D'abord, courage pour tout ce travail-là. J'espère que ça va aller de l'avant.
Mais
je voudrais absolument, je ne peux pas te laisser partir sans poser une question sur. Je suis en train de chercher l'évaluation. EIOC, évaluation
de l'impact.
De l'impact.
C'est l'origine.
Voilà.
De la culture.
Voilà. mais redisons-le, l'évaluation de l'impact, c'est ça, hein? Sur l'origine, voilà. Parce que c'est paru, puis ça fait un gros débat. On a quelques minutes et je vais demander à Maëlle de l'autre côté là de retenir sa main sur le bouton là, de vraiment permettre d'expliquer un peu ce que c'est.
Donc, c'est l'évaluation de l'impact sur l'incidence culturelle et ethnique.
Voilà.
En fait, ce sont des rapports qui sont rédigés et qui aident les juges en matière criminelle, avant le prononcé de la peine, dans le cas de dossier, de voir quelle est l'incidence, en fait, de ce qu'on appelle les déterminants sociaux, l'incidence du racisme, etc., sur le comportement du délinquant. Donc, avec la stratégie canadienne, ce qu'on disait, c'était d'étendre ces rapports-là au Québec, parce qu'au Québec, ce n'était pas encore appliqué.
Mais c'est appliqué dans le reste du Canada.
C'est appliqué dans le reste du Canada. Okay. Ce qu'on demandait aussi, c'était de soutenir de manière plus concrète et financière, donc de mettre un budget, d'allouer un budget à la rédaction de ces rapports-là. C'était d'étendre non pas seulement à la détermination de la peine, mais aussi à tout ce qui est révision de détention, à tout ce qui est mis en liberté sous caution, etc., et même en amont, avant que le directeur de la poursuite criminelle ne décide de judiciariser, entre guillemets, le dossier, de tenir compte de ces rapports-là, avant toute chose. Et donc, c'est ce qu'on demandait. Okay. Je sais que ça fait beaucoup de remue-ménage, parce qu'il y a un juge au Québec qui l'a utilisé pour la première fois dans le cadre d'un dossier et beaucoup estiment que c'est du traitement préférentiel que d'utiliser ce genre de rapport-là. Mais ce qu'on ne dit pas et qui est important, c'est que l'équité, quand on parle d'équité dans les décisions, ce n'est pas un privilège qu'on accorde aux gens. Ce n'est pas un privilège.
Okay.
C'est une sorte de restauration de ce qui a été brisé. Donc, c'est hyper important. Et donc, pour un juge de venir dans le cadre d'un dossier, de se dire, qu'est-ce qui peut avoir contribué à faire en sorte qu'on se retrouve ici aujourd'hui et comment est-ce que la justice peut se faire réparatrice? Donc, en ce sens-là, ben, c'est de tenir compte de ce genre de rapport.
Est-ce que notre système judiciaire, notre système de justice est une justice réparatrice?
C'est...
On aspire à cela, je ne veux pas mettre l'avocat dans le trou, mais à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas.
On aspire à cela et c'est pour ça qu'on demande de financer ce genre d'initiative. Donc, ces rapports-là, c'est déjà appliqué dans les autres provinces.
Oui, au Québec.
Pourquoi est-ce que ça coince au Québec?
Mais est-ce que quelque part, ta corporation, est-ce que vous comprenez les cris que ça a pu susciter? Parce que tu viens de dire traitement préférentiel, donc d'expliquer de manière très concrète, d'expliquer la délinquance de Ryslaine, par exemple, elle n'est pas délinquante, hein, mais bon, c'est elle qui est là. Mais d'expliquer la délinquance de quelqu'un de par ses origines ethniques, oh, c'est peut-être lié au fait que, oh, vous savez, c'est une personne noire qui a vécu telle chose, donc voilà, c'est là pour ça qu'il en arrive à ça.
Ben, moi, j'estime qu'en tant que société, on a le devoir d'éduquer, de comprendre les tenants et les aboutissants, parce que si on ne fait qu'appliquer en fermant les yeux sur ce qui peut avoir poussé X personnes à commettre X actes, et surtout, quelle est la compréhension de la personne de ce qui se passe. Donc, si on, en tant que société, on n'est pas capable de réfléchir ensemble et de travailler ensemble pour tenir compte de ces déterminants sociaux, ben, j'estime qu'on aura échoué. Et donc, c'est pas un traitement préférentiel, c'est de tenir compte de tous ces enjeux-là, de tous ces paradigmes-là,
quand on applique
la loi. Et je pense qu'en tant qu'acteur et acteur de la justice, ben, on est un peu responsable aussi de nos citoyens.
C'est un débat. C'est pas illégal, hein. C'est puisque ça se fait ailleurs. Là, il y a ce juge qui le fait. Donc, il revient à chaque juge de décider s'il veut en tenir compte ou pas.
Effectivement, il revient à chaque juge d'en tenir compte.
Ok. Oui. De toute façon, il y a eu un précédent au Québec, donc je pense que ça va continuer. Il y aura des cris, mais ça va continuer.
On l'espère.
Vous repartez discuter quand pour en finir avec le C2, le projet de loi C2.
Avec le projet de loi C2, oui. Là, il y a donc C12 qui a été réintroduit. Je suppose qu'il y aura une première lecture, puis ensuite une seconde lecture, puis ensuite ça va passer en comité. Puis on aura, j'espère, avoir l'occasion de se faire entendre avant tout vote sur ce projet de loi là. Dans l'intervalle, nous, on va continuer notre travail.
Merci beaucoup d'être venu nous parler de ça. Je rappelle encore, donc Hérite Avocat, c'est le cabinet de mon invité Suzanne Tafo. Hérite, et puis et vous avez vu là sur l'annonce, Hérite, c'est H-E-R-I-T-T, il n'y a pas de R.
Ça, c'était 5 ans.
Oui, voilà, c'est ça. Et ça fait 5 ans, là, qui va fêter son 5e anniversaire très bientôt. On aura l'occasion d'en reparler,
merci,
n'est-ce pas?
Beaucoup.
Merci beaucoup, Suzanne Tafo.
Merci,
on n'a pas parlé musique aujourd'hui. Parce que. Mon nom est Cyril Ekwala.